Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 26 septembre 2021. Sujet, la réalité. Texte d'or, Jean. Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Christ Jésus. Lecture alternée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. La Bible. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, « descends avant que mon enfant meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, « Science et santé, avec la clé des Écritures » de Marie Baker Eddy. Toute réalité est en Dieu et sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie. Et en science divine, le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie, que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. Celui qui a la vraie idée du bien perd tout sens du mal, et de ce fait pénètre dans les réalités impérissables de l'esprit. Celui-là demeure dans la vie qui ne provient pas du corps, incapable de soutenir la vie, mais de la vérité qui développe sa propre idée immortelle. Jésus donna la vraie idée de l'être, et il en résulte pour les mortels des bienfaits infinis. À mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l'homme, d'innombrables objets de la création, jusque-là invisibles, deviendront visibles. Lorsque nous comprendrons que la vie est esprit, qu'elle n'est jamais dans la matière ni matérielle, cette compréhension s'épanouira jusqu'à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu le bien et n'ayant besoin d'aucune autre conscience. La maladie, le péché et la mort sont les vagues réalités des conclusions humaines. La vie, la vérité et l'amour sont les réalités de la science divine. On les voit poindre dans la foi et rayonner dans toute leur plénitude dans la compréhension spirituelle. Comme un nuage cache le soleil qu'il ne peut éteindre, ainsi la fausse croyance fait taire pour un moment la voix de l'immuable harmonie, mais la fausse croyance ne peut détruire la science armée de foi, d'espérance et de réalisation. Ce que l'on appelle sens matériel ne peut témoigner que d'un sens mortel et temporaire des choses, tandis que le sens spirituel ne peut témoigner que de la vérité. Pour le sens matériel, l'irréel est le réel jusqu'à ce que ce sens soit corrigé par la science chrétienne. Le sens spirituel, en contradiction avec les sens matériels, implique l'intuition, l'espérance, la foi, la compréhension, la réalisation, la réalité. La réalité est spirituelle, harmonieuse, immuable, immortelle, divine, éternelle. Les réalités de l'être, son action normale et l'origine de toute chose sont invisibles au sens mortel, tandis que l'on qualifie de réel les mouvements irréels et imitatifs de la croyance mortelle qui renverserait volontiers le mode et l'action immortelle. Celui qui contredit cette supposition de la réalité provenant de l'entendement mortel est appelé un trompeur, ou l'on dit qu'il a été trompé. Si le maître n'avait pas eu de disciples, ni enseigné les vérités invisibles de Dieu, il n'aurait pas été crucifié. La détermination de tenir l'esprit dans l'étreinte de la matière persécute la vérité et l'amour. Le sens matériel n'aide jamais les mortels à comprendre l'esprit, Dieu. C'est uniquement par le sens spirituel que l'homme comprend et aime la divinité. Les sens matériels ont beau contredire de diverses façons la science de l'entendement, cela n'altère en rien la vérité invisible qui demeure à jamais intacte. La vue, l'ouïe, tous les sens spirituels de l'homme sont éternels. On ne peut les perdre. Leur réalité et leur immortalité sont dans l'esprit et dans la compréhension, non dans la matière, d'où leur permanence. Paul dit : En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Lorsque la substance de l'esprit apparaît en science chrétienne, le néant de la matière est reconnu. Là où est l'esprit de Dieu, et il n'y a pas de lieu où Dieu ne soit pas, le mal devient néant, l'opposé de ce qu'est l'esprit. S'il n'y a pas de réflexion spirituelle, alors il ne reste que les ténèbres du vide, sans aucune trace de teinte céleste. Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Le révélateur était sur notre plan d'existence, tout en voyant cependant ce que l'œil ne peut voir, ce qui est invisible à la pensée non inspirée. Ce témoignage de l'Écriture sainte appuie ce fait dans la science, que pour une certaine conscience humaine, cette conscience que Dieu confère, les cieux et la terre sont spirituels, tandis que pour une autre, pour l'entendement humain non éclairé, la vision est matérielle. Cela montre indubitablement que ce que l'entendement humain appelle matière et esprit indique des états et des phases de conscience. Accompagnant cette conscience scientifique, il y eut une autre révélation, savoir la déclaration venant du ciel, harmonie suprême, que Dieu, le principe divin de l'harmonie, est toujours avec les hommes et qu'ils sont son peuple. Ainsi, l'homme n'était plus regardé comme un misérable pécheur, mais comme le bienheureux enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que le sens corporel que saint Jean avait des cieux et de la terre avait disparu et que ce faux sens avait fait place au sens spirituel, l'état subjectif qui lui permettait de voir le nouveau ciel et la nouvelle terre, lesquels impliquent l'idée spirituelle et la conscience de la réalité. Nous avons donc l'autorité de l'Écriture pour conclure qu'une telle récognition de l'être est et a été possible aux hommes dans cet état actuel d'existence, que nous pouvons devenir conscients, ici-bas et dès maintenant, de la cessation de la mort, de la tristesse et de la douleur. Voilà bien un avant-goût de la science chrétienne absolue. Prenez courage, ô vous qui souffrez, car cette réalité de l'être apparaîtra assurément un jour et de quelque manière. Il n'y aura plus de douleur et toutes larmes seront essuyées. Apprenons à connaître le réel et l'éternel et préparons-nous pour le règne de l'esprit, le royaume des cieux, le règne et le gouvernement de l'harmonie universelle. Harmonie qui ne peut être perdue ni demeurer à jamais invisible. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.